Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, Lisa a le plaisir de recevoir Émilie Gévard et Frédéric Couillec afin de parler de la sortie de Créature et Créatrice.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Émilie Gévard, dramaturge, metteuse en scène et romancière, ainsi que Frédéric Couillec, musicien. Vous êtes donc venu nous parler du projet Créature et Créatrice. Tout d'abord, comment allez-vous ? Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter brièvement chacun votre tour, que nos auditeurs sachent un petit peu qui ils écoutent, s'il vous plaît ?
Oui, alors, moi je suis donc Émilie Gévard, je suis metteuse en scène, comédienne et j'écris. C'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc j'ai une compagnie à Poulainville qui s'appelle Le Poulailler. Et voilà, et j'ai publié plusieurs livres, notamment à la Chouette Imprévue, qui est une maison d'édition locale. Voilà, et du coup là, je viens de publier un livre un peu spécial, un livre-jeu avec Fred et avec Caroline Daillot, qui l'a illustré aux éditions La Chouette Imprévue.
Alors moi, c'est Fred. Je suis musicien sur Amiens, mais voilà, je travaille dans différentes compagnies de théâtre. Je fais aussi des groupes de musique, je fais partie des Crappy Coyotes notamment. Mm-hmm. Et puis voilà, je navigue à droite, à gauche, je joue de la basse, de la contrebasse, puis je bidouille des trucs. Donc voilà.
D'accord. Donc on va parler de créature et créatrice. Qu'est-ce que c'est du coup ? C'est un jeu, c'est un livre audible, c'est tout à la fois ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Au départ, c'est un projet très personnel. C'est une recherche que j'ai faite au sujet de Mary Shelley, qui est donc l'autrice notamment de Frankenstein, et de sa mère, Mary Wollstonecraft. Je suis partie un peu sur leurs traces, en Angleterre, en Suisse, et puis j'ai également mêlé mon propre rapport à l'écriture à ces deux récits. Ce sont deux écrivaines, deux autrices, qui ont donc ce lien de mère à fille sur lequel j'ai eu envie de travailler. Et je voulais aussi travailler sur le lien entre ces deux personnalités et la créature de Frankenstein. Voilà, comment cette créature, cette espèce de monstre, est aussi une métaphore de la création en général. Et voilà.
Et à quoi servent du coup les QR codes au voilà, dos de alors, chaque carte?
Voilà, alors ça c'est juste le point de départ. Je vais être un peu longue peut-être parce que le processus est assez long. Ça c'était vraiment le point de départ, c'est un trajet très personnel. Et puis j'en ai fait une première forme que j'ai présentée dans des lycées à Amiens, en collaboration avec le Rayon Vert d'ailleurs, où j'ai proposé de tirer quelques textes au hasard à des lycéens et de les lire. Et en fait, de ce projet est né l'objet et le spectacle qui est venu par la suite. J'ai demandé à Fred de m'accompagner, de faire une création musicale. Enfin, en tout cas, c'est ce que lui m'a proposé. Et puis ensuite, il y a eu cette proposition éditoriale d'en faire un jeu qui ressemble finalement à un jeu de tarot. Voilà. Et donc, pour les QR codes, je vais peut-être laisser Fred en parler.
Ce qu'on peut dire, c'est que chaque texte possède des ambiances sonores. Donc, ils sont plein de choses différentes. Donc, la voix d'Émilie est enregistrée. Donc on a fait aussi un travail d'enregistrement, enfin il y a eu l'écriture, l'enregistrement, en fait il y a plein de choses, hein, enfin moi j'appelle ça l'objet, cet objet. Et voilà, chaque QR code correspond à une musique, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au-delà de cet objet, qui est édité chez La Chouette Imprévue, il y a aussi un spectacle qui existe.
D'accord.
Voilà, donc là on en est à la... Là pendant Rayon Vert, ça fait la cinquième fois qu'on le joue, donc... Ce soir, ça sera la cinquième fois. Et voilà, il est, c'est transversal, quoi. Entre l'objet, le spectacle, il se passe des choses différentes. C'est jamais le même spectacle, puisque tout n'est pas tiré. Par contre, tout est dans cet objet-là. Une partie des textes, parce qu'après, Émilie pourra rajouter aussi que ça fait partie d'un livre.
Ouais. Ça. En fait, le principe, c'est que le tirage pendant le spectacle est aléatoire, donc c'est jamais le même spectacle. Donc, c'est une lecture musicale, mais c'est un peu plus qu'une lecture. On préfère parler de spectacle aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, c'est différent. Et c'est pour ça que la proposition de l'éditeur, hein, de La Chouette Imprévue, était intéressante, parce qu'on retrouvait avec les cartes ce côté un peu aléatoire. Et puis, en même temps, il y a un côté... pas ésotérique, mais voilà, un peu mystérieux, on va dire, qui était intéressant et qui est renforcé par les illustrations de Caroline Daillot, qui sont vraiment magnifiques. Et elle a illustré, en fait, chacun des textes. Donc là, on a 24 cartes pour 24 textes qu'on peut écouter, regarder, et qu'on peut lire aussi, puisqu'il y a un livret qui accompagne l'objet. Et puis effectivement, par la suite, il y aura une publication de l'ensemble du texte que j'ai écrit, donc qui est un peu plus dense, puisqu'il fait environ 200 pages. Voilà.
Ah oui, c'est pas du tout le même format.
Voilà.
pour juste rappeler aux personnes qui nous écoutent, donc le festival Rayon Vert qui a eu lieu donc du 11 au 29 mars. Festival de poésie sous toutes ses formes dont vous avez fait partie, du coup vous avez joué combien de fois ce spectacle du coup pendant ce festival?
Cinq fois.
Oui,
trois fois en tout public et deux fois pour un lycée, le lycée de la Haute-Oie.
D'accord.
Avec des rencontres aussi autour avec les lycéens, aussi des ateliers d'écriture dans le cadre du Rayon Vert.
Oui, c'est ce que j'allais dire, des ateliers d'écriture. Du coup, c'est accessible à tous, tout le monde peut y participer.
C'est sur inscription.
C'est sur inscription.
Les ateliers d'écriture, oui.
D'accord.
Oui, c'est ouvert à tous.
Fred, je voulais savoir, donc tu as réalisé la musique de ce projet. De quoi tu t'es inspiré? Comment s'est passée la composition pour toi?
Avant tout, en fait, ça remonte à un an.
D'accord.
Avant que ça soit tout ça, tout ce qu'on explique. C'est une rencontre déjà avec Émilie et Sam sur une lecture autour d'un poète qui s'appelle Werner. À la suite de ça, Émilie me propose de l'accompagner pour une lecture simple, on va dire. Et donc, c'était il y a déjà un an. Presque.
Ouais.
Et je commence à composer des choses. Donc, moi, j'ai travaillé déjà avec des enregistrements vraiment très basiques. Donc, il y a eu des allers-retours. En fait, je travaillais chez moi, j'ai envoyé mes musiques. Et donc, les musiques, en fait, il y a plein de choses dedans. Il y a des instruments, il y a des samples, il y a des boucles, il y a des trucs bidouillés. Il y a plein de trucs différents. Des trucs que j'étais chopé à droite, à gauche, que j'ai composé, que j'ai modifié. Et en fait, je me suis inspiré à chaque fois de ces textes. Donc, il y a 24 textes, donc 24 musiques. Et je me suis inspiré de l'ambiance de ce qui était dit dans les textes. Donc, je sais qu'à un moment donné, il est question de cimetière. Enfin, voilà, je ne dis pas tout. Mais donc, ça m'a donné des images. Et en fait, c'est avec ces images-là que j'ai imaginé des choses.
Des ambiances.
Voilà,
des...
c'est ça. Et en me disant qu'il fallait après mettre tout ça dans une lecture au début. Donc, ça mélange des samples, donc cette lecture, et il y a aussi de la basse et un peu de kalimba. Et voilà, après, je travaille à base de boucles, en fait.
D'accord.
Quand c'est la basse, je superpose, je mets des samples, je joue par-dessus.
Et oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le spectacle, du coup, on est tous les deux en impro un peu. Alors, c'est pas improvisé parce qu'on a travaillé chaque morceau, mais on ne sait pas sur quel morceau on va tomber. Donc moi je tire un texte d'une poubelle et selon ce qui est tiré, mais c'est pas la même chose qui va être joué. Et il y a différentes pistes que Fred envoie également en direct. Donc à la fois il joue et à la fois il envoie des ambiances sonores.
D'accord.
Voilà, on l'a vraiment pensé.
Pendant le
ouais, voilà, pendant le spectacle, on l'a vraiment pensé ensemble comme ça. Et ça se traduit dans le jeu. Donc par ces QR codes qu'on invite la personne qui utilise le livre-jeu, on l'invite à tirer des cartes au sort, trois par exemple, et à partir de là, l'écoute varie à chaque tirage du coup.
D'accord.
Même si les QR codes restent les mêmes.
Et je voulais savoir pourquoi créature et créatrice.
Alors, le thème, le cœur du sujet, c'est vraiment la création. Mais c'est beaucoup la création au féminin, parce que voilà, c'est deux autrices féminines. Mais la particularité, en fait, c'est que Mary Wollstonecraft a donné naissance à Mary Shelley donc, en 1797, c'était il y a un petit moment. Et elle est morte 11 jours plus tard. Donc voilà, en fait, tout le propos découle de cette origine-là, qui est assez violente, et de cette question de la naissance et d'une espèce de poids qu'a pu porter Mary Shelley toute sa vie, le poids de l'hérédité de cette mère, mais aussi le poids de la chair quelque part, et puis le poids du deuil qui traverse toute son existence. Et voilà. Et donc, la créature, c'est aussi la créature dans Frankenstein.
Oui.
Frankenstein, c'est le nom du scientifique, du docteur, et non de sa créature qui n'a pas de nom. D'où le créature et créatrice, parce qu'on parle ici surtout de la création au féminin et de créatrice. Voilà. C'est le cœur du sujet.
C'est le cœur du sujet.
Et dans Frankenstein, c'est vrai que la créature et le créateur, au fond, on pourrait penser qu'ils sont une seule et même personne, finalement. C'est comme l'un et le double de l'autre. On est toutes et tous un peu créature et créatrice, ou créateur, voilà.
Bah, puisqu'on met aussi de soi quand on crée quelque chose.
Voilà, c'est ça. Il y a un côté très charnel, très incarné, en fait, dans cette idée de création. On est vraiment dans le scientifique qui va aller chercher dans des charniers, dans des cimetières, justement, la matière de sa création. Voilà, enfin, cette métaphore-là, elle est très forte. Alors, évidemment, c'est un peu macabre, mais voilà, c'est
bien présent dans ton œuvre.
Oui. Finalement, ce qui crée un côté patchwork, hein, avec les cartes.
Oui, c'est ça. Et les cartes sont très colorées, par contre.
Oui, alors le design, justement, tu nous as dit le nom de l'illustratrice tout à l'heure.
Alors le design, c'est Alicia André qui a fait les graphismes, et l'illustratrice, c'est Caroline Daillot, qui est une artiste. Alors elle parle d'art singulier. Elle a une maison à Holt qui s'appelle la Villa Verveine, qui est entièrement peinte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Dans c'est votre marrant. Regard.
Je ne saurais pas dire, mais je ne sais pas pourquoi ça me dit un truc.
C'est très beau. Voilà. Okay. C'est très beau. C'est très et c'est complètement raccord avec le propos de la chose, de l'objet. Voilà.
De l'objet, comme dit Fred.
Et finalement, elle aussi a créé à partir... Alors moi, j'avais les bandes de son,
oui,
parce que j'avais enregistré Émilie, mais elle avait les différents textes d'Émilie.
Ouais. Et elle a dessiné à partir de ça, du coup.
Oui, voilà. sans qu'il y ait une rencontre au préalable, d'ailleurs.
Ah oui.
Si, on s'est rencontrés.
Ah si, vous. Si, ouais, si, pas moi.
On s'est rencontrés. Et effectivement, c'était une commande de l'éditeur. Donc, elle a créé sur tissu 24 cartes.
D'accord.
Qui sont comme des cartes de tarot. En plus, Caroline Daillot, elle est passionnée par la taromancie, tout
d'accord.
ça. Donc c'est vraiment...
Puisque je peux rajouter aussi, pour ne pas l'oublier, c'est que c'est Benjamin Tessèdre qui a, comment dirais-je...
Photographié.
Oui, photographié, repris. Parce qu'en fait, à la base, c'est, les cartes de Caroline, il y a le côté Frankenstein où les vrais, c'est avec des coutures tout autour.
D'accord.
Donc là, sur le jeu, finalement, on retrouve les cartes, mais il n'y a pas toutes ces coutures. Donc c'est Benjamin qui a fait aussi tout ce travail, parce qu'il y avait des choix à faire aussi.
Ok.
Donc voilà, je le
sais. En termes de présentation, du coup.
Ouais, voilà. Il fait partie aussi de l'équipe, de cet objet, quoi.
Du projet.
En fait, voilà, projet. C'est un projet qui, au départ, est solitaire et qui est devenu très collectif.
Oui.
Voilà, parce qu'il y a les éditeurs, il y a Fred, il y a.
Et Christophe de Kerpel aussi.
J'allais dire. Ouais. Christophe de Kerpel qui fait les corrections. De toute façon, un livre, il y a toujours toute l'équipe derrière.
Et... Dès qu'on crée quelque chose, au final, même si on peut le faire tout seul,
c'est
ça devient une équipe.
C'est bien, ça, parce que ça parle aussi de transmission, enfin, comment bah voilà, là, c'est l'héritage aussi d'une mère à sa fille. Comment la création, c'est pas juste quelque chose qu'on pose là pour que ce soit regardé ou écouté ou etc. ou lu. C'est aussi quelque chose qui doit circuler et se transmettre. Voilà, c'est beaucoup ça mon propos.
Et puis ça fait vivre ton projet, le fait d'avoir fait participer au final pas mal de monde, c'est que ces personnes se sont reconnues aussi dans tes mots.
Oui, comme moi j'ai pu me reconnaître dans les mots de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, et ça nourrit. Et voilà,
une chaîne sans fin.
Il y a cette idée-là d'une chaîne sans fin, de même que la génération des êtres humains et autres d'ailleurs. Est une chaîne sans fin également. Il y a quelque chose qui doit se transmettre là-dedans, comme un héritage, quoi.
Et quel autre projet vous avez prochainement en commun, ou non d'ailleurs ?
Oui, on a d'autres projets en commun, notamment, alors moi avec ma compagnie, le Poulailler, on lance un gros chantier autour d'Albertine Sarrazin, une autre autrice qui a notamment été emprisonnée à Amiens, à la maison d'arrêt d'Amiens et à la citadelle de Doulan. Donc on monte ce projet-là en partenariat avec la citadelle de Doulan et la communauté de communes Territoire Nord-Picardie.
D'accord.
Donc il y a plusieurs versants dans cette création. Il y a ce qu'on appelle une grande forme, c'est-à-dire un gros spectacle, on va dire, qui s'appelle Bibiche, qui est l'adaptation d'une nouvelle d'Albertine Sarrazin. Et puis, il y a une lecture musicale qui va plus traverser son journal intime en prison. Donc, cette lecture musicale, on va la faire ensemble, moi et Fred. Voilà.
D'accord.
Donc, on commence à en parler. On va bientôt, dès le mois d'avril, commencer à y travailler sérieusement, voilà, ensemble. C'est le prochain projet commun. Et après, sinon, on a également, tout à l'heure, Fred en parlait, une lecture où là, on est à trois. Avec Sam Savreux, qui fait également partie de la compagnie. Et donc, c'est autour de Werner Lambercy, qui est un poète belge et qui est également édité, dont le texte est également édité chez La Chouette Imprévue.
D'accord. J'ai vu aussi, du coup, la compagnie Le Poulailler organise la 11e édition du Festival Basse-Cour, du 16 au 19 mai. Et il me semble que vous y serez.
Voilà, bah oui, justement, on fera cette lecture voilà, le 17 mai, donc le vendredi soir, lecture de Werner. Et puis toi, tu vas également y être avec...
Avec le Balbubus.
Ouais.
Avec Ben Brune et Julien Guyard pour un festin au fond de la mer. Voilà.
Un festin au fond de la mer, ouais. Tu peux nous dire un peu plus
de choses ? C'est un conte musical, en fait.
D'accord.
Donc on est à trois, il y a Ben Brune qui compte et... Il y a Julien Guyard alias Goni Mandé qui joue du Goni et tout ça c'est acoustique, moi je joue de la contrebasse et c'est très chouette, c'est une reprise, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas joué, donc c'est un CD qui existe aussi, etc. Mais tout ça c'est transversal finalement.
Et ça ce sera le dimanche 19 mai, le matin je crois à 11h. Voilà, on fait en fait toujours le dimanche, on termine par une journée familiale, donc avec beaucoup de spectacles tout public ou jeune public et ou jeune public. Voilà, et sinon, c'est bah, le festival, c'est la 11e édition et c'est 4 jours de spectacles, principalement théâtre, musique.
Et où se passe-t-il d'ailleurs ce fameux festival ?
À la salle des fêtes de Poulainville.
D'accord. Voilà. Et bien, on a hâte de voir ça du 16 au 19 mai prochain, alors. Dites-moi avant, pour terminer, comment est-ce qu'on peut se tenir au courant justement de ces prochains événements, de ces prochains projets ? Où est-ce qu'on peut vous suivre, tous les deux ?
Alors, le mieux pour ce qui me regarde et pour ce qui regarde nos projets en commun, ce sera de suivre la compagnie Le Poulailler, donc www.cielepoulailler.com. Et puis, on peut également suivre, alors j'ai pas l'adresse par cœur là, mais on peut également suivre la vie de La Chouette Imprévue, notre maison d'édition, sur leur site internet qui est régulièrement mis à jour également. Donc voilà, La Chouette Imprévue, voilà, je me souviens plus de l'adresse exacte, mais
Ouais, alors moi, je voudrais juste rajouter un tout petit truc.
Bien sûr.
Parce que je trouve que c'est important. C'est que, pour revenir à l'objet, il a été imprimé à la zone industrielle à Pixar. Donc, l'éditeur aussi a fait le choix, il le fait aussi pour les autres, ses autres publications, de passer par du circuit court. Ce qui veut dire que ce n'est pas un bouquin qui vient de l'autre bout du monde. Il est imprimé juste à côté. Donc, voilà. Enfin, je tiens à le dire parce que...
C'est local et c'est important.
Exactement, voilà. Donc... c'est Pixar qui a géré cette impression, donc Vincent
Pixel
François.
Pixel Avenue.
Pixel Avenue, oulala, Pixar c'est autre chose. Mais voilà, je tenais à le signaler parce que bah, voilà, il y a beaucoup de trucs, c'est Made in China et voilà.
Et là c'est local,
voilà.
Ouais. 100%.
C'est ça.
C'est un vrai choix politique aussi, mais écologique et politique.
C'est important, je suis d'accord. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire avant de terminer?
Bah Émilie, vas-y.
Alors d'abord, merci de nous avoir reçus et puis, on vous invite à découvrir cet objet, cette chose, voilà, à vous l'approprier, à le faire vôtre. On le trouve notamment à Amiens, vous pouvez le trouver chez Martel.
Magnifique, eh ben, on ira voir tout ça. Ben, merci à vous Émilie et Frédéric d'être venus nous parler de créatures et créatrices.
Merci.
On continue cette semaine spéciale sport avec le troisième épisode de la série consacrée à la natation réalisée par Emma Dumont, étudiante en Master 2 de journalisme à l'Université de Picardie Jules Verne.
Oh, enfant, Jeux Olympiques, joie, natation, métier, peur, nager, le challenge d'une vie.
Troisième étape, surmonter l'aquaphobie. Osélo est une association mettant en place des dispositifs à Amiens et ailleurs en France pour ces personnes. Selon Yvan Langlais, le président, cette méthode vise dans un premier temps à prendre du plaisir dans l'eau, à nouer ou renouer un contact affectif avec l'élément. C'est José, maître nageur pour l'association, qui nous parle de cette aide indispensable.
Alors l'association Osélo existe depuis une trentaine d'années. On a deux antennes, une antenne qui est située à Lille, à Lambersart, et puis une antenne sur Amiens.
Est-ce que vous savez combien il y a d'adhérents?
Alors on se situe à peu près à 300 adhérents en comptant les adultes et les enfants. Alors à la base, l'association Osélo a été créée pour intervenir auprès des personnes aquaphobes. C'était une demande qui a été faite d'un ami, de Yvan Langlais. Yvan Langlais, c'est le responsable de l'association Osélo, et qui lui a demandé de pouvoir intervenir auprès d'elle pour intervenir sur ses problèmes de phobie de l'eau. Et donc l'association a démarré comme ça sur différents stages, les stages qui sont le week-end, à peu près 3-4 par an, et de là a découlé des ateliers. Donc les ateliers, c'est la continuité de l'apprentissage de la natation chez les ex-aquaphobes. Et de là, toutes les activités sont créées autour de l'aquaphobie jusqu'à l'aquagym, en passant par les leçons enfants. Alors moi, étant maître nageur en piscine municipale, il n'y a pas de groupe d'aquaphobie qui a été créé. Et l'association Osélo, justement, a pallié à ce manque. Donc ça me permet d'évoluer sur une nouvelle pratique qui est vraiment très intéressante et puis intervenir auprès d'adultes avec de fortes phobies.
Et concrètement, comment se passe l'arrivée d'une personne aquaphobe?
Alors généralement, ces personnes aquaphobes mettent un peu de temps à faire le premier pas et de se dire bon voilà, je vais essayer de me confronter à cette peur. Donc il y a un premier échange qui se fait généralement par téléphone et puis donc on leur demande de venir auprès de la piscine La Providence à Amiens, et puis un premier contact se fait. On parle ben, voilà des attentes des personnes, on leur explique un petit peu le déroulé des séances, du stage qui est mis en place. On les rassure et puis de là, les personnes s'inscrivent sur le stage de week-end, donc c'est le samedi et dimanche. Et puis après, si les personnes sont motivées pour continuer, on leur propose des leçons tous les jeudis et samedis de la semaine.
En général, le plus grand frein d'une personne aquaphobe, c'est mettre la tête sous l'eau, rentrer dans l'eau.
Ouais, c'est ça, c'est ces personnes qui ont subi souvent un traumatisme, un mauvais apprentissage étant jeune ou un traumatisme d'une première noyade. Donc la première démarche, bah, ça va être de descendre dans le bassin. Généralement, ça se passe pas trop mal. La plus difficile, bah, voilà, ça va être l'immersion du visage avec toutes ces représentations que les personnes ont pu avoir sur de mauvaises représentations, sur l'engloutissement, sur être absorbé par l'eau. Donc voilà, on essaie justement de changer toutes ces représentations et leur donner un lien, un contact affectif avec l'eau qu'ils ont perdu.
Et combien de temps ça peut prendre pour une personne de surpasser un peu cette peur ?
Voilà, tout dépend du traumatisme et puis de la personne. Il est vrai qu'un stage que l'on propose sur un samedi après-midi, un dimanche, ça représente à peu près une douzaine d'heures. Déjà, on a bien décompté l'affaire. Les personnes ont changé un peu leur regard et le regard qu'elles pouvaient avoir sur l'élément liquide. Et puis après, ça va relativement vite parce que les personnes qui sont vraiment motivées et assidues par les leçons qu'on propose par la suite prennent rapidement plaisir. Alors, il y a toujours un peu cette appréhension avant chaque cours, mais au bout d'une année, d'une année scolaire, déjà de gros progrès apparaissent, mais très rapidement, quoi.
Et j'ai vu que l'association était sur plusieurs sites, donc à Amiens, mais à Lille, enfin, c'est une formule qui marche. Est-ce que vous envisagez d'aller sur d'autres sites ou d'améliorer vos formules ?
Alors, bien sûr, on a pensé à se développer. On avait essayé de développer l'association sur Lyon. On avait un contact. Alors, la difficulté qu'on rencontre, on ne peut rien faire forcément sans piscine. Et généralement, ce qui est le plus facile pour nous, c'est des petites structures avec des piscines privées. Et c'est très difficile à trouver parce que ça demande des créneaux, des maîtres nageurs qui sont intéressés et intéressants par justement ces formes de stage. Donc voilà, la difficulté, c'est de trouver le site et après les professionnels aptes à intervenir auprès de cette activité.
Un dernier mot ?
Que les gens n'hésitent pas à contacter l'association, de passer le pas. On est là justement pour recréer un lien affectif avec l'élément et redonner plaisir à toutes ces personnes qui ont subi un traumatisme et qui restent bloquées à cause de ça.
À très vite pour la quatrième étape de notre aventure aquatique. Nager, le challenge d'une vie.
Eau, enfants, jeux olympiques, joie, natation, métier, peur. Nager, le challenge d'une vie.